France Musique.
Étonnez-moi, Benoît.
Mais oui, je vais vous étonner grâce à mon invité qui a commencé sa carrière dans les années 50 auprès du grand compositeur Joseph Canteloube avant de devenir la vedette de plusieurs opérettes. Mon invité, Lucie Dolène, c'est aussi la voix française du Blanche-Neige de Walt Disney et à la ville, l'épouse de Jean Constantin. Le plus étonnant, c'est que tout cela ne l'empêche pas d'être toujours jeune, vive et joyeuse. Après ce rendez-vous avec Lucie Dolène, la chronique de Serge Laïc sera consacrée au chef d'orchestre Jean-Claude Ric. Avant cela, commençons par remonter le temps jusqu'en 1941, c'était il y a 70 ans.
Dans les salons, autant de mots passant, sur belle amie, chaque femme en passant, se retournait, espérant la promesse de son regard doux comme une caresse. Et sur les phrases du tendre et du cœur, dont le renom fut de briser tous les cœurs, on entendait comme un frisson chanter cette chanson. Bel amant, bel amour, bel ami. Follement chaque jour, bel ami. Tu conduis sur tes pas une femme qui tout bas s'est jurée de tomber dans tes bras. Ton pouvoir est si grand, bel ami, qu'en un soir en riant, bel ami, ton doux charme a conquis tous les cœurs du grand Paris, bel amant, bel amour, bel ami.
Oui, à Paris, mais qu'est-ce que je dis, dans tous les pays, à Berlin aussi.
Einen netten jungen Mann, der gar nichts ist und nichts Besonderes kann, und den die Damen dennoch heiß verehren, weil er das hat, was alle Frauen begehren. Er macht die anderen Männer ganz nervös mit seiner tollen Chronik skandalös. Er nimmt die Frauen, wie er will, bei ihm hält jede still. Du hast Glück zu meinen Frauen, Bellamy. Ein Mann, der gefällt. Du verliebst jeden Tag dich aufs Neue. Alle küsst du und bleibst keiner treu. Doch die Frau, die dich liebt, machst du glücklich wie noch nie. Bellamy, Bellamy, volle
Belle amie, quelle merveille, quel homme, mais alors, quel coquin.
Merveilleuse artiste franco-allemande Eva Busch, née en 1909. Ici, c'était une chanson donc inspirée par Maupassant et enregistrée en 1941, juste avant l'arrestation d'Eva Busch, qui a fini la guerre déportée à Ravensbrück. Heureusement, sa carrière a continué bien après. Elle est morte à Munich en 2001. Mais puisque nous étions en 41, on va passer maintenant en 44 avec des chansons qui ont déjà le bon parfum de la libération.
Thank you.
fille charmante, en âge de prendre un mari. Mais elle était exigeante et refusait tous les partis.
Les garçons pour la séduire venaient la voir tour à tour. Elle ne faisait que sourire en écoutant leur discours.
Mademoiselle,
frôlez-vous, mademoiselle, ça serait cool. Je suis châtelain, soyez ma châtelaine, lui le premier, ma fortune est à vous.
Moi je suis le roi, voulez-vous être reine?
Moi j'ai des diamants et des millions de perles.
Non, 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 dit la belle, non, 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 je ne veux pas. Vous m'offrez des bagatelles, celui qui m'aura sera plus riche que ça.
Ah, ah, ah.
Moi je sais danser, j'ai du sex appeal.
Moi je suis meunier, j'ai beaucoup de galettes.
Quand l'instant
moi je suis jolie et je vous lance un style.
Mademoiselle,
voulez-vous? Mademoiselle, ça serait fou. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de fortune, mais mon cœur est plein d'amour et de chansons. Mon étoile brille et danse avec la lune, et je sais des mots qui donnent le frisson.
Oui, 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 lui dit-elle, oui, 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 pour toujours. C'est vous que mon cœur appelle, car sous l'or du monde, ça ne vaut pas l'amour.
Voilà, ça n'était pas encore tout à fait la libération en janvier 1944, mais ça n'était plus très loin. Et d'ailleurs, tous les noms des interprètes sont inspirés de l'anglais. Nellie Kay pour la dame, Bobby Forrest pour le monsieur. Et c'était le grand orchestre de Joe Bouillon, donc à quelques mois de la libération dans Mademoiselle, voulez-vous ? Comme vous pouvez l'entendre, les compositeurs de musique répétitive, que j'aime beaucoup, vous le savez, n'ont rien inventé. Ça existait déjà sous des formes très diverses dans toute l'histoire de la musique. Ici, en 1911, une merveilleuse petite pièce de Déodat Sévrac, extraite du recueil En vacances. Et la pièce elle-même s'intitule « Où l'on entend une vieille boîte à musique ». Vous l'avez bien entendu, cette boîte à musique, avec au piano Aldo Ciccolini. Un petit peu d'opérette, enfin on va en parler tout à l'heure, beaucoup d'opérette avec Lucie Dolène à propos de Schnock et La Belle Arabelle en particulier. Alors plutôt peut-être un petit peu de comédie musicale, un extrait des New Yorkers, un des petits chefs-d'œuvre méconnus de Cole Porter, enregistré en 1930.
Thank you. turkey legs, with corned beef hash I'm all through, 'cause I'm getting myself ready for you. I'll never stoop to onion soup, and pork and beans are taboo, 'cause I'm getting myself ready for you. To be sure of being worthy of you, dear, in every way, I'm building a perfect physique, and beside which I want you to holler hooray when first you see me in my soldier speak. If you still feel I need a meal, I'll risk an olive or two, but I'm getting myself ready for you.
I'm getting myself ready for you. C'était Emil Coleman et son orchestre dans The New Yorkers, une comédie musicale de Cole Porter, 1930. Le temps où New York était encore une ville amusante, où l'on aimait Maurice Chevalier et Lucienne Boyer, tandis qu'à Paris, on aimait Gershwin et Irving Berlin. Mais tiens, restons encore un peu à New York, de l'autre côté de la guerre, là, en 1964, avec le camarade James Brown. Il était déjà excellent en mars 1964, le cher James Brown, ici dans Out of the Blue. Il me semble que j'entends un coucou, ce qui tombe bien parce que mon invité aujourd'hui a, vous le verrez, une voix d'oiseau quand elle chante les mélodies de Joseph Canteloup. Elle a également été la vedette de plusieurs opérettes comme Schnock ou La Belle Arabelle. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Lucie Dolène.
Une jeunesse, un sourire en chantant. temps, cela suffit pour que renaisse toute une jeunesse. Un sourire en chantant, et penser que c'est belle, charmant, le joli printemps, de nouveau.
Bonjour Lucie Delaine.
Bonjour.
Le sourire en chantant, c'est un peu ce qui vous définit, parce que vous êtes quand même plus une chanteuse et une artiste du sourire que de la lamentation.
Hein. Oh bah absolument, absolument. Le sourire, la joie de vivre.
C'est dans votre nature ?
C'est dans ma nature, et puis j'ai eu beaucoup de chance aussi. Oui, j'ai eu beaucoup de chance de marcher comme ça, tranquillement. Les choses avançaient sans qu'on les provoque, elles se faisaient d'elles-mêmes, c'était merveilleux.
Oui, donc ça prête plutôt à sourire.
Ça prête plutôt à sourire, et même à éclater de rire, parfois.
Éclater de rire. En tout cas, cette chanson, évidemment, beaucoup d'auditeurs l'auront reconnue, puisque c'est la version française de La Blanche-Neige de Walt Disney, version 1962. On reviendra sur le fait qu'il y avait eu déjà une première version quelques années avant. Mais c'est donc vous qui chantez dans ce film de 62 que tout le monde a vu dans son enfance. Et c'est vous aussi qui doublez Blanche-Neige dans toutes les parties parlées. Hein.
Oui, tout à fait.
Voilà. Ce qui n'était pas prévu au départ.
C'était pas prévu. Quand je peux vous raconter.
Oui, allez-y.
Bon, alors, je suis venue faire des essais pour les chansons. Et puis, j'entendais l'ingénieur du son et son assistant dire « Bon, c'est bien, Lucie, formidable. » Alors, dis donc, on a toujours personne pour le texte, hein, pour la voix parlée, c'est embêtant. Alors, j'ai fait un petit signe et j'ai dit, écoutez, faites-moi faire un essai, parce que je suis comédienne aussi, j'ai fait mes classes de comédie aussi. Mais oui, bonne idée, Lucie, bien sûr, allez, venez, on va monter une boucle. Et voilà, ça s'est fait comme ça, et le lendemain, on me téléphonait pour me dire, formidable, monsieur Keating est fou de joie, la même voix pour les deux choses.
Et c'est d'autant plus extraordinaire, alors que des années avant, peut-être on y reviendra en racontant un peu plus votre histoire, mais quand même des années avant, vous vous êtes trouvé un soir à Hollywood, à la table de Walt Disney, au cours d'une tournée aux États-Unis.
Voilà, j'étais venue chanter pour l'ouverture de l'hôtel Hilton à Hollywood, et il y avait même Gilbert Bécaud cette soirée.
À la même table
à
que
la
vous,
même table. Nous étions tous les deux à la même table, et nous étions à la table de Walt Disney, alors c'était...
C'est quand même extraordinaire.
C'était quand même extraordinaire, quoi. Il était charmant, gentil, moi je le dévorais des yeux, je me disais, regarde bien, écoute bien, c'est un moment exceptionnel.
Il disait quelques mots de français, ou c'était tout en anglais?
Non. Mais enfin, voilà, l'ambiance était extraordinaire, parce qu'il y avait des stars partout autour de nous.
Et vous n'imaginiez pas qu'un jour vous doubleriez Blanche-Neige?
Non, je n'imaginais pas qu'un jour...
Non,
aucun rapport. Sauf que quand Blanche-Neige est sortie pour la première fois avec la première voix française qui était Madame Lucienne Dugard, je chantais déjà Un jour mon prince viendra à l'école, et j'avais chanté Un jour mon prince viendra à la fête de l'école de fin d'année.
Voilà.
J'avais 10 ans, 10 ou 11 ans.
Oh oui, à peine, parce
voilà,
que c'est un peu avant la guerre.
Voilà.
Alors à l'époque, donc vous fredonniez pour la première fois ces musiques, vous étiez donc une petite fille d'un père militaire, ce qui fait que vous avez beaucoup voyagé pendant votre enfance.
Mais oui, ça m'a fait voyager un petit peu, ça m'a fait naître en Syrie d'abord.
Vous êtes née à Damas.
Voilà, à Damas, et j'ai un de mes frères qui lui est né à Alep. Ouais. Et puis après, ça a été l'Indochine.
Voilà.
Saïgon, Pulo Condor.
Et l'origine corse de votre nom, Tchiaroni, ça a de l'importance dans votre, disons, dans votre imaginaire musical,
dans
votre culture personnelle?
Oui. Vous savez, les Corses chantent bien, ils ont une belle voix. Et mon père chantait très bien. J'ai des souvenirs de mon père chantant, et ma mère aussi chantait très bien. Ils avaient tous les deux
des
voix magnifiques,
Alors, vous avez pris vos premières leçons de musique, je crois, à Toulon, au fil de cette vie itinérante.
Oui.
Ensuite, vous vous êtes retrouvé avec vos parents à Saint-Amand-Montrond.
Oui.
Vous êtes un peu perfectionné dans la musique, vous étiez encore très jeune. Et c'est là qu'un de vos professeurs vous a dit, il faudrait que tu rencontres le grand Joseph Canteloube.
Absolument. Voilà. C'était Mademoiselle Ganik Mériadec, qui était professeure de violon, une femme adorable et merveilleuse, inoubliable.
Et elle connaissait Canteloube ?
Elle connaissait Canteloube, sa famille connaissait Canteloube. Elle m'avait dit, il faut absolument que tu rencontres ce bon maître Canteloube.
Alors, qui était un des très grands compositeurs de l'époque. On va en reparler dans un instant, mais je vous propose qu'on écoute d'abord un extrait donc, de ces chants de France de Canteloube, enregistré par vous, avec Joseph Canteloube au piano. C'est quand même un document extraordinaire, qui joue également merveilleusement. Il faut écouter à la fois votre voix et l'accompagnement.
Ah oui, quel toucher.
C'est un délice.
Allons dans ce petit bois charmant, quand on y va que l'on est à l'aise. Allons dans ce petit bois charmant, quand on y va que l'on est content. Un beau monsieur y va chassant, quand on y va que l'on est à l'aise. Un beau monsieur y va chassant, quand on y va que l'on est content. Demoiselle y va lisant, quand on y va que l'on est à l'aise. Une demoiselle y va lisant, quand on y va que l'on est content. Ils se rencontrent en se saluant, quand on y va que l'on est à l'aise. Ils se rencontrent en se saluant, quand on y va que l'on est content. Se sont assis deux sur un banc, quand on y va que l'on est à l'aise. Se sont assis deux sur un banc, quand on y va que l'on est content. Se sont regardés tendrement, quand on y va que l'on est à l'aise. Se sont regardés tendrement, quand on y va que l'on est content. Se sont jurés de doux serments, quand on y va que l'on est à l'aise. Se sont jurés de doux serments, quand on y va que l'on est content. Se sont quittés en s'embrassant, quand on y va que l'on est à l'aise. Se sont quittés en s'embrassant, quand on y va que l'on est content.
Lucie Delaine, vous vous rappelez cet enregistrement?
Oui.
En 1950, je crois.
Oui. C'était. Vous savez, les moments passés chez Maître Canteloube, c'est imprimé dans ma mémoire à jamais, quoi. C'était des moments merveilleux. Il y a eu un jour où c'était. Olivier Messiaen était là. Nous répétions les chants, comme celui que nous venons d'entendre, les chants d'Auvergne, d'Angoumois, de Touraine et autres. Et Olivier Messiaen tournait les pages.
C'est extraordinaire. mais comment est-ce que vous êtes allé donc la première fois, vous êtes monté à Paris avec votre famille?
Oui, je suis monté à Paris avec maman, oui.
Et vous avez débarqué vous aviez rendez-vous avec Joseph Canteloube?
Voilà, on avait rendez-vous avec Joseph Canteloube, rue de Rennes. Et ça a été une belle, belle, belle rencontre.
Oui.
Une rencontre extraordinaire.
C'est lui qui a eu l'idée, alors ensuite, après vous avoir entendu, donc il a été séduit par votre voix.
Il a tout de suite été séduit, on va dire oui, c'est par ma voix. Et il a eu cette idée de cet enregistrement, ce premier enregistrement qu'on a fait chez Ducretet Thompson. Et voilà, et ça a été une collaboration merveilleuse qui a duré quelques années.
Il a eu d'ailleurs le grand prix du Charles Cros pour ce disque.
Oui, absolument. Et. C'était Colette la grande Colette qui avait adoré le disque, que j'ai rencontré le jour où j'ai reçu mon prix.
Elle était là. Elle vous a parlé avec son accent bourguignon.
Oui, elle m'a parlé, elle m'a dit, venez ici mon petit, venez vous asseoir à côté de moi. Venez. Et elle était assise, elle m'a fait asseoir par terre, elle a pris ma tête qu'elle a posée sur ses genoux. Et moi, je me disais, c'est Colette, ne bouge plus.
C'est quand même extraordinaire. Donc, vous avez 19-20 ans et vous êtes entre Joseph Canteloube, Colette, Olivier Messiaen.
Le président Édouard Herriot qui est venu la saluer à un moment donné et qui lui a dit, comment allez-vous, ma chère Colette? Oh mon Dieu, mon pauvre Édouard, parlons un peu de nos douleurs.
Ah oui.
Avez-vous essayé la cortisone? Et alors, il a dit, mais moi, j'ai toujours vos lettres à fleurs. Ne parlons plus de ça, s'il vous plaît, Édouard.
Ah oui, c'est merveilleux.
Oui, oui. Et voilà, ça s'est imprimé dans ma tête, quoi. C'était le dialogue que j'ai entendu.
Mais alors, tout cela devait vous destiner à une carrière dans le monde de la musique classique.
Oui, tout à fait. J'avais cette envie-là, j'avais ce projet, on va dire, ce rêve de faire une carrière lyrique, mais... Très vite, je me suis aperçue que c'était trop difficile, que j'étais trop... j'avais trop peur, trop peur. J'avais loupé une note, ce serait épouvantable. Je travaillais des airs magnifiques, je travaillais Mimi, la vie de Bohème, je travaillais Madame Butterfly. Mais je me disais, ça c'est très bien avec le prof, chez mon prof, mais en scène. Oh, quelle horreur. j'avais peur.
Vous êtes une traqueuse ?
Oui.
Oui,
oui. Oui.
Alors, vous avez donc bifurqué, on va y venir dans un instant, notamment vers l'opérette, et tant mieux pour nous. Mais vous avez quand même gardé des vraies admirations dans le domaine de la musique classique, avec des voix d'ailleurs qui ressemblent un petit peu à ce qu'aurait pu être la vôtre.
Oui.
Je pense notamment, par exemple, à Mado Robin.
Ah oui, Mado Robin, quelle merveille.
Ouais.
Cette coloratour, cette femme extraordinaire. J'ai un souvenir d'elle dans l'enlèvement au Sérail, où elle était divine.
Mais vous aviez cette facilité d'aller très très haut comme
oui,
ça.
Oui, oui, oui. J'étais un soprano léger, pas vraiment coloratour, mais enfin pas loin.
Alors,
je grimpais assez haut, oui.
On va retrouver tout de suite Mado Robin dans un air extrait de Lucia de la Mermoor.
Oui.
Avec justement alors un super super aigu.
Ah oui. Ah,
je crois que vous aimez beaucoup.
Ah oh, oui, j'adore.
Il mio terreno
On applaudit nous aussi.
Ah oui, quelle merveille.
Voilà, Madame Robin. Vous admirez aussi, alors, dans un peu d'ailleurs, dans le même genre de voix, je sais Lily Ponce, par exemple.
Ah oui. Oui, Lily Ponce. Figurez-vous que je l'ai rencontrée sur la Côte d'Azur.
Oui.
Elle avait une sœur qui habitait Cannes, qui s'appelait Madame Bardot. Et cette dame était l'amie de nos amis qui avait aussi une très belle auberge à Magagnosque. Et on a rencontré Lily Ponce ça. Et c'était une femme absolument adorable et d'une beauté. Elle m'a raconté qu'elle avait eu le trac et qu'elle avait été malade toute sa vie, qu'elle avait vomi toute sa vie avant les concerts. Et voilà.
Elle était revenue sur la Côte d'Azur.
Côte d'Azur et elle vivait enfin dans la sérénité.
Ah oui.
Mais elle était d'une beauté extraordinaire.
Et parmi les héritières d'aujourd'hui, je crois que vous aimez bien Cécilia Bartoli aussi. Hein.
Ah, ben la Bartoli, évidemment.
Quand même.
Ah oui. Il y a la Bartoli, il y a Nathalie Dessay, il y a des tas de femmes époustouflantes en ce moment. Oui.
Sauf que vous, donc, alors, votre carrière a pris un autre chemin à ce moment-là. Mmh. Vous vous êtes dit, bon, l'opéra, c'est pas pour moi. Pourquoi je ne ferai pas de l'opérette?
Voilà.
Et un personnage qui a été très, je crois, déterminant, dont il faut qu'on parle, parce que je l'évoque parfois dans cette émission, c'était un des derniers grands compositeurs d'opérette, ça a été Guy Lafarge.
Oui, tout à fait.
Voilà. Comment vous l'avez rencontré,
Guy Lafarge? Guy Lafarge, je l'ai rencontré aussi en lui téléphonant un jour.
Oui.
Oui, voilà, Monsieur Lafarge.
Parce que vous aviez repéré une de ses œuvres.
Oui,
j'aimais
beaucoup ses chansons.
Oui.
Et j'aimerais que vous m'entendiez, j'aimerais passer une audition avec vous parce que j'adore vos chansons, etc. Alors c'est un galant homme très gentil qui m'a dit, écoutez mademoiselle, voulez-vous venir cet après-midi? Je n'aurai qu'une demi-heure à vous consacrer parce que je pars en voyage, mais si vous avez la possibilité de passer me voir cet après-midi, venez. Alors je me suis présentée et puis 2 heures après, j'étais toujours là.
Le voyage était un prétexte au cas où... Vous l'auriez rasé.
Voilà. Et donc il m'a dit, mais il faut absolument que je vais vous écrire des choses pour vous. Je vais vous monter un tour de chant. On va commencer à vous faire du cabaret. J'ai chanté chez André Pasdoc, qui était un homme délicieux, chez qui beaucoup de chanteurs et de chanteuses ont débuté. Son cabaret s'appelait Les Chansons.
Oui.
Et André Pasdot était quelqu'un d'adorable.
Ça se trouvait où, ça?
Ça se trouvait à l'Opéra.
À l'Opéra.
Rue Sainte-Anne.
Ah oui. Donc ça, c'était la chanson. D'abord, il a fait des chansons pour vous.
Il a fait des chansons pour moi. Et ensuite, il y a eu...
Dont une qui a eu beaucoup de succès, qui était La Scène.
Voilà.
Oui.
La Scène, c'est-à-dire qu'il a imaginé de me faire chanter La Scène dans toutes les langues où elle avait été adaptée. Donc on a fait ce truc, La Scène en anglais, en italien, en espagnol, en arabe.
Oui.
Et c'était très drôle parce que c'est devenu une de mes pièces maîtresses dans mon tour de chant, on va dire. C'était devenu à la fin un vrai sketch, quoi.
Et donc, Guy Lafarge, ensuite, vous a proposé un rôle dans une opérette, qui est resté d'ailleurs un peu dans les mémoires, qui s'appelle Schnock.
Schnock.
Et qui a été créé en 1952 à l'Européen, Place Clichy.
Exactement.
Autour d'un personnage principal qui était Jean Rigaud. Peut-être nous rappeler un peu qui était Jean Rigaud.
Jean Rigaud, c'était un personnage extraordinaire. C'était un chansonnier qui était au summum de son succès, de sa notoriété. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Il avait une personnalité fracassante. Il était brillantissime. Il était drôle. Il avait sauté sur les genoux de Claude Debussy parce que son papa était chanteur à l'opéra et que Debussy venait prendre le thé à la maison. Et tu te rends compte, il m'emmenait au square. Il me baladait au square. Et quand on rentrait chez mes parents, il disait, viens, je vais te jouer la promenade au piano. Et il me jouait la promenade au piano. Tu te rends compte, Debussy, Claude Debussy.
C'était quoi l'histoire de Schnock?
Alors, l'histoire de Schnock, c'était une histoire absolument loufoque. Je serais incapable de vous
ça
dire.
Ça n'avait ni queue ni tête.
Ça n'avait... Oui, voilà.
C'était des numéros, plutôt.
C'était des numéros, et ça donnait lieu à des numéros de Rigaud absolument irrésistibles. Et il y avait des gens merveilleux. Il y avait Jacques Dinham, il y avait Nadine Tallier.
Devenue Nadine de Rothschild.
Nadine de Rothschild.
Ah oui. Elle chantait dans Schnock aussi.
Elle chantait dans Schnock. Et c'était une camarade absolument adorable et drôle.
Et le librettiste Marc Cab, dont le nom revient souvent dans les opérettes de l'époque.
Oui, mais Marc Cab, c'était le compagnon de Guy Lafargue. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Ah oui. Et Marc était un homme aussi délicieux, adorable et gentil, qui venait presque tous les soirs au théâtre, tellement il était content de nous, quoi.
Vous avez fait alors quelques disques. On va écouter tout de suite une des chansons de Schnock, chantée par vous. Ça s'appelle Le Poulailler.
Oui.
Et c'est en plus, c'est Michel Legrand qui vous accompagne dans le disque avec son orchestre.
Ah, c'est Michel.
Eh ben oui, c'est Michel Legrand.
Oh, ça, c'est drôle, alors. Ah, tout me revient.
J'ai passé la nuit entière bien cachée dans la volière parmi les pintades et les pigeons ramiers. C'est fou ce qu'on apprend de choses beaucoup plus qu'on ne suppose quand on passe la nuit dans un poulailler. Oh, saviez-vous que les pigeons tout en faisant se font des pauvres? Saviez-vous que le seigneur dindon ferme sa roue en poussant de glou-glou et que les canetons se retirent dans les coins pour faire coin-coin? Coquero del doux, coquero del doux, oh, c'est le joli cacotique chuchote, coquette la coco, coco-corico. Sombre, j'ai vu scintiller dans l'ombre les yeux du gros matou de notre voisin. À sa vue, la maman poule se sentant la chair de poule, vite, vite fit l'appel de ses poussins. Tipi, 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 j'ai appris que la poulette a le cœur si gentil qu'elle offre son lit à des tas de jeunes vagabonds, aux canetons qui n'ont plus de maison, aux dindonneaux qui n'ont plus de berceau. Coquero del doux, coquero del doux, vite vous soyez abrités, vous y a de la place pour vous. Tipi tipi tipi, tipi tipi, le rire est pour le cœur des tout petits blottis à la bourrie. Près de moi sur une planche bien rangée, quelques oies blanches me rappeler le dortoir de la pension. Je dormais à côté d'elle, la tête auprès de leurs ailes, quand le coq nous fit entendre le clairon. Coquero del doux, coquero del doux, debout là-dedans, petits et grands, le soleil est là. Cocorico, loup, loup, loup.
Le poulailler, voilà, Lucie oui, Dolène. Oui. J'ai dit une bêtise, j'ai dit 45 tours, en fait ce sont des 78 tours. Oui. Mais quand je vous vois, j'ai du mal à imaginer que vous chantiez à l'époque du 78 tours, Lucie Dolène.
Eh oui, ce sont des antiquités, mon cher.
La face A donc de ce Philips, c'est Le Poulailler. Sur la face B, il y avait Mon cœur à la télévision.
Eh oui, il y avait...
Également extrait de Schnock.
Extrait de Schnock, c'était aussi une mélodie ravissante aussi.
Voilà, c'était un grand succès d'ailleurs,
Schnock.
C'était
un grand succès, hein. Et quand je pense que c'était Michel Legrand qui accompagnait.
Oui.
Oh, mais Michel m'a même accompagné au cabaret.
Ah oui?
À une certaine époque, et c'était tellement beau ce qu'il faisait au piano que quelquefois j'étais complètement perdue. Il changeait les harmonies, les concertos.
Et dans la foulée alors, de ces succès, il y a eu donc, cette tournée aux États-Unis. Mmh. Où vous avez failli d'ailleurs amorcer une carrière américaine, puis finalement vous avez renoncé.
Oui, hein, ben oui. Oui, j'ai renoncé parce que j'avais fait la rencontre de Joe Pasternak, oui, qui voulait me proposer un contrat à la MGM. Je lui ai dit non, je ne peux pas parce que j'ai signé un contrat, je dois jouer une opérette avec Luis Mariano à Paris. Et je m'attendais à ce qu'il dise oh, Luis Mariano.
Évidemment,
il m'a dit who?
Who?
Who is Luis Mariano? Who is? Donc voilà. Et alors il m'a dit, mais laissez-moi régler cette affaire, je vais me mettre en rapport avec le théâtre et avec vos agents, etc. Mais non, j'ai voulu rentrer.
Vous avez voulu rentrer et néanmoins, au cours de ces voyages en Amérique, alors vous avez retrouvé au fil du voyage d'autres artistes français, notamment Édith Piaf.
Ah oui.
Mais alors, Édith Piaf, qui au moment où vous étiez une toute jeune fille couronnée avec Canteloube, avait été très très gentille avec vous, je crois. Là, comme vous étiez devenue une jeune femme, elle était beaucoup plus indifférente.
Oui, elle était très indifférente. Enfin, oui, c'est ça. Ouais. C'était Piaf. Hein,
Ça se passait où ?
Ça se passait à Hollywood.
Voilà.
Ça se passait dans un grand cabaret où elle chantait. Et nous avions rencontré...
Mocambo.
Le Mocambo à Hollywood. Ouais. Et c'était le soir où nous avions chanté à l'hôtel Hilton, ouais. Beko et moi. Et nous étions ensemble. Et nous rencontrons Raoul Breton.
Ouais,
qui était
le grand
éditeur de musique qu'on connaît, qui était un seigneur, un homme absolument merveilleux et adorable, qui nous dit, mes enfants, je vais écouter Édith au Mocambo, est-ce que vous voulez venir avec moi? Là-dessus arrive Jean-Pierre Aumont, qui errait lui
oui,
aussi.
Voilà, tout le... ça.
Eh ben, Jean-Pierre, voulez-vous venir? Alors, nous sommes partis au Mocambo, et on a écouté la merveilleuse Piaf, qui a fait le silence dans une salle brillante, enfumée, qui a été... merveilleuse, et je me disais, alors Monsieur Breton a dit, on va aller embrasser Édith. Et alors moi, je me disais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire à cette femme? Je vais lui embrasser les pieds, je vais m'agenouiller devant elle. Et je n'ai pas eu à me poser trop de questions, parce qu'elle m'a complètement ignorée.
Elle ne m'a pas regardée.
Elle ne m'a pas regardée.
C'est intéressé qu'aux messieurs.
Voilà. Et bon, voilà, elle a invité tout le monde le lendemain chez elle, évidemment. Et Gilbert m'avait dit, mais c'est pas grave, tu sais, elle est comme ça, Édith, c'est parce que c'est un soir où elle n'était pas en phase avec une autre femme. Mais c'est bien sûr, mais c'est pas grave. J'ai passé une soirée tellement extraordinaire. Oui.
Et donc, vous êtes rentré à Paris et vous avez effectivement chanté Chevalier du Ciel avec Luis Mariano.
Avec Luis Mariano.
Encore un autre souvenir important,
oui,
évidemment, j'imagine.
Bien sûr, c'est un très beau souvenir.
Oui.
Très, très beau. C'était un homme délicieux. C'était une leçon de chant tous les soirs.
C'était dans quel théâtre, le Chevalier du Ciel ?
À la Gaîté Lyrique.
À la Gaîté Lyrique. Voilà, cette chère Gaîté
cette
Lyrique.
Cette chère Gaîté Lyrique. Voilà, et c'était un très beau souvenir avec lui. Oui, très... Il était gentil comme tout, il était très attentionné, très attentif à comment on se sentait. Oui, c'est un beau souvenir.
Et puis, l'année suivante, en 1956, alors une opérette que j'ai souvent évoquée dans cette émission, notamment avec Paul Touraine, des Frères Jacques, La Belle Arabelle.
Ah oui.
Alors là, c'était à nouveau la musique de Guy Lafarge. Et
ouais.
C'est une opérette qui a bien marqué ceux qui l'ont vue, qui avait beaucoup de poésie, je crois.
Oui, c'était ravissant. C'était une très jolie histoire. Et puis, bon, les frères Jacques, il y aurait des heures à leur consacrer, parce que c'était des hommes extraordinaires, des artistes extraordinaires, et Francis Blanche.
Voilà, qui était librettiste. Hein.
Qui était le librettiste, qui était si drôle, qui était si gentil, si imprévisible.
Même sur scène, il était dans le spectacle.
Il était dans le spectacle, et il était aussi avec Luis Mariano. Il était dans Les Chevaliers du Ciel, Francis.
Mais quand vous dites imprévisible, ça veut dire qu'il lui arrivait de faire sur scène quelque chose qui n'était pas
voilà,
prévu.
Voilà, il improvisait beaucoup, oui. Et je me souviens d'un gag avec Luis Mariano. Il le cherchait dans la jungle, dans la forêt où son avion était tombé. Ouais. Capitaine, où êtes-vous? Oh, qu'est-ce qu'on va devenir dans cette forêt? Pas même un petit bonbon, une petite sucette, un petit caramel, quelque chose. Et à ce moment-là, de la salle, la scène était recouverte de bonbons, de caramel, et tous les soirs, on ramassait, vous voyez.
Ah oui. C'était une idée de Francis Blanche.
C'était une idée de Francis.
Vous jouiez quel rôle dans ces deux opérettes? Alors, Chevalier du Ciel.
Je jouais la jeune première, dont le bel aviateur tombait amoureux, évidemment, qui était une jolie petite bretonne.
Et dans La Belle Arabelle?
Et dans la Belle Arabelle, alors c'était une pauvre petite princesse qui avait perdu la mémoire, si ma mémoire est bonne, et qui rencontrait son prince charmant et Jean Rigaud qui nous faisait des tours pendables en scène aussi, c'était terrible. Il apparaissait avec des barbes, il se déguisait, il se mettait derrière les décors pendant qu'on avait notre petite scène d'amour, le jeune premier et moi.
Ah oui.
Il apparaissait en faune.
Sans prévenir, vous n'y attendiez pas.
Oui, alors c'était très dur. C'était...
Alors, une autre rencontre d'un personnage non dénué d'humour non plus, très importante pour vous dans ces années-là, on expliquera pourquoi après, c'est celle de Jean Constantin.
C'est lancinant, hein. Il y a des soirs où c'est intenable. Comme Paris rime avec esprit comme la Seine, rime avec Verlaine comme Neugent, avec le printemps toi, tu rimes avec moi comme Passy, rime avec souci comme Auteuil, rime avec orgueil comme Pigalle, rime avec fringale toi, tu rimes avec moi Samba. Rime avec Cuba, Pablo, avec Picasso, Muguet, avec premier mémé, la tonte, hinte. Bloom, bloom, comme Paris. Rime avec esprit comme la Seine. Rime avec Verlaine comme Neugent. Avec le printemps, toi. Tu rimes avec moi comme joli, rime avec folie comme un ange, rime avec étrange comme la mousse, avec ta peau douce, toi. Tu rimes avec moi comme l'amour, rime avec toujours comme plus tard, rime avec trop tard comme Paris, avec on s'en fiche, toi. Tu rimes avec moi, ton corps. Rime avec encore tes yeux, avec merveilleux demain. Et main dans la main, viens, la tonte. Hinte. Bloom, bloom. Comme joli. Rime avec folie, comme un ange. Rime avec étrange, comme la mousse. Avec ta peau douce, toi, tu rimes avec moi, comme Paris. Rime avec Verlaine, comme Verlaine. Rime avec toujours, comme toujours. Avec mon amour, toi, tu rimes avec moi. Hey, hey, c'est toi, padapadadan, et on.
Toi, tu rimes avec moi. Il a dû vous le dire, Jean-Constantin, de temps en temps. Toi, tu rimes avec moi.
Tout à fait, tout à fait.
Voilà, parce qu'il faut dire, Lucie Delaine, que ce chanteur que j'aime beaucoup, et vous l'avez épousé au début des années 60.
Exactement.
Jean-Constantin.
Exactement. Ben, je chantais à l'époque, je chantais Mon manège à moi.
Voilà, c'est lui, il faut rappeler, hein, c'est lui, qui a écrit avec Norbert Glanzberg.
Voilà, absolument, absolument. Et je chantais le manège, je faisais une petite parodie du manège, enfin ça
qui était déjà un grand succès de
Piaf.
Oui,
qui était déjà un grand succès, et je chantais ça à l'Oreille du Bois, un endroit où bien des camarades ont traversé les allées, on va dire.
C'était au début du Bois de Boulogne, hein,
voilà, au début
restaurant.
Du Bois de Boulogne, voilà. Et Jean est venu m'écouter là un soir et je lui ai dit, oh, mais dites donc, vous devriez me... Est-ce que vous avez des chansons pour moi? Il m'a dit, mais oui, bien sûr, j'ai plein de chansons à vous montrer. Quand est-ce qu'on peut se voir pour que je vous montre mes chansons? Ben, j'ai dit, mais quand vous voulez. Il me dit, demain, ça vous conviendrait? J'ai dit, oui, très bien. Et on ne s'est plus quitté.
Et ben voilà.
Voilà, c'est la vraie histoire.
Vous avez eu deux enfants d'ailleurs avec,
oui, absolument.
Avec Jean-Constantin.
Non, trois.
Trois enfants, pardon.
Trois enfants. Deux garçons et une fille.
Voilà, mais les deux garçons sont musiciens.
Oui, et ma fille aussi.
Et votre fille aussi.
Ma fille aussi, ma fille chante merveilleusement bien. C'est une très bonne musicienne. Elle chante le jazz, elle compose.
Alors ce qui est fascinant d'ailleurs chez Jean Constantin, moi ça m'a toujours frappé, c'est ce goût qu'il a de façon parodique, mais en même temps on sent qu'il aime vraiment pour la musique cubaine, qu'il a été vraiment un des premiers à défendre
ces rythmes afro-cubains, bien sûr.
Il aimait ça vraiment, il en écoutait.
Oh, il en écoutait beaucoup,
ah, oui.
Oui. Et voilà, il est parti beaucoup trop tôt, malheureusement. Et je trouve que On l'a un peu vite oublié. Je trouve qu'on aurait pu parler de lui un peu plus souvent.
C'est vrai, c'est
depuis,
vrai.
Depuis qu'il est parti.
On a parlé d'ailleurs du manège immortalisé par Piaf de Jean Constantin, mais il ne faut pas oublier qu'il a été l'auteur et pas seulement l'interprète donc de beaucoup d'autres
oui,
chansons.
Oui, bien sûr, Jean a écrit quelques très belles chansons et quelques belles musiques de films et surtout la musique des 400 coups
de Truffaut.
De Truffaut.
Ah oui.
Voilà, ça c'est une très très jolie musique et il a écrit des paroles là-dessus qui sont très drôles et très poétiques à la fois.
Et c'était puis, important pour lui, vous vous rappelez quand il l'a fait ?
Ah oui, je me souviens très bien de cette période. C'était juste avant qu'on se rencontre, mais on en a beaucoup parlé après. Ouais. Et puis, il y a eu mon truc en plume pour Jean Maire.
Évidemment.
Qui est venu à la maison répéter avec Roland. C'est un très, très beau souvenir. Puis, il y a toutes sortes de belles chansons dont il faudrait qu'on parle pendant des heures.
Ça mériterait quelques belles compilations.
Ça mériterait
en tout cas,
quelques belles compilations, oui. Qu'on en parle de lui un petit peu de temps en temps.
Voilà, on va faire une émission spéciale, Jean Constantin.
Oui, ce serait une belle idée avec ses trois enfants. Oui. Parce que François, le percussionniste, a fait un très beau spectacle sur les chansons de son père.
Oui.
Et voilà, une belle idée avec les trois.
Lucie Delaine, vous parlez de vos enfants, justement, c'est important parce que vous qui avez fait un début de carrière rapide, brillant, et vous disiez tout à l'heure, finalement, les choses se sont présentées à vous facilement.
Oui, c'est vrai.
En même temps, quand vous êtes devenue mère, eh bien, vous avez quand même un petit peu, peut-être, laissé plus la musique au deuxième plan.
Oui, bien sûr. Je me suis beaucoup investie dans mon rôle de maman, ce qui était tout à fait normal. Mais avec en toile de fond quand même des tas
sûr.
De choses, parce qu'il y a eu Le Noir te va si bien, il y a eu mes retrouvailles avec Jean Le Poulain, que j'avais connu à Toulon, parce que Jean était au conservatoire de Toulon avec une de mes sœurs, ils étaient en classe d'art dramatique tous les deux, et moi j'étais petite fille, et ma sœur était sa grande copine. Enfin voilà, avec Jean Le Poulain, il s'est passé plein de choses aussi.
Et le théâtre peut-être l'a un peu emporté aussi sur la musique par rapport à la
première période. Bien sûr.
Mais la chanson, pour autant, n'a pas été laissée de côté. On va s'en apercevoir tout de suite avec une chanson très amusante que j'ai trouvée qui s'intitule « Qui casque ».
Allons bon.
Je suis une fille raisonnable, toujours à l'heure, toujours aimable, mais j'ai commis une folie. Le jour où j'ai pris un mari, au lieu d'épouser un dentiste, un architecte, un ébéniste, ou à la rigueur, un artiste, je me suis entichée d'un génie. Achille se prend pour un peu ouette, mais c'est Vernon Nicolas, ouette. Il prétend que les gens sont trop bêtes pour apprécier ses manuscrits. Mais en attendant, qui casque. Mais en attendant, qui casque, c'est moi. Il est suspendu à mes basques. Il est suspendu à mes basques. Je n'ai jamais un sou à moi. Il rapporte de ses voyages des souvenirs et des images qui me font encore plus regretter de ne pouvoir l'accompagner. Je travaille à longueur de semaine et c'est ma grande amie Germaine, une jolie fille bien tournée, qui se dévoue pour l'accompagner. Elle dit qu'elle le soigne comme un frère, moi je suis sûre qu'elle est sincère, mais pendant ce temps-là je rince les verres à l'hôtel des cornes dorées. Mais en attendant, qui casque. Mais en attendant, qui casque, c'est moi. Il est suspendu à mes basques. Il est suspendu à mes basques. Je n'ai jamais un sou à moi. L'autre jour, une jolie fille, noire comme on en fait qu'aux Antilles, portant dans ses bras un bébé, me dit, puis-je vous le confier, je suis la fiancée d'Achille. Il m'appelait sa fleur des îles. En pâtant, il m'a conseillé de vous confier votre Haïti. Comme je ne suis pas née de la veille, ça m'a mis la puce à l'oreille. Achille, pour se faire pardonner, me remplace aux cornes dorées. Aussi maintenant, qui casque. Aussi maintenant, qui casque, c'est lui. Quand on veut commettre des frasques. Quand on veut commettre des frasques, tôt ou tard on les paie dans la vie.
Qui casque. Elle est drôle cette chanson.
Elle est drôle, oui, effectivement. Effectivement.
Et elle est doublée d'ailleurs. Alors là, cette fois, c'est bien un 45 tours, c'est pas un 78 tours, mais un maxi 45 avec 4 chansons. Et sur la même face, il y a une autre chanson très drôle qui s'appelle Caroline, où vous dialoguez avec une guitare.
On dialogue avec une petite guitare, oui.
Qui imite tous les,
les
états d'âme.
Voilà, c'était un très bon guitariste qui s'appelait Pierre Cavalli.
Oui.
Et ça avait beaucoup de succès quand on faisait ça en scène.
Voilà. On aurait pu écouter encore d'autres chansons. Je sais que vous aimez bien, par exemple, Quand l'amour meurt, que vous avez enregistré également.
Oui, voilà, c'est une belle chanson.
Vous avez dans la chanson, alors on a parlé des chanteuses d'opéra tout à l'heure, aussi des amours, je pense à Yvonne Printemps, par exemple.
Oui, Yvonne Printemps, quelle merveille. Oui, oh là là. C'était la beauté, c'était le talent, c'était le charisme. Ouais. Yvonne Printemps, Suzy Delair, ce sont des femmes qui m'ont...
Notre chère Suzy Delair, qui nous écoute peut-être.
Oui, qui m'ont enchantée, qui m'ont fait rêver. Suzy Delair, je l'adore, vraiment. Je voudrais qu'elle nous entende et qu'elle sache à quel point je l'aime, à quel point je l'ai aimée, à quel point je l'aime.
Ça va lui faire plaisir. Et alors donc, comme Suzy Delair et Yvonne Printemps, je le disais, dans la... on peut dire deuxième partie de votre carrière, vous avez quand même consacré beaucoup de temps au théâtre, avec notamment, Le Noir te va si bien, que vous avez donné à la télévision, vous avez donné en tournée avec Jean-Luc Poulain. Rappelez-nous cette pièce.
Cette pièce, c'est une pièce absolument extraordinaire. C'est un festival Le Poulain.
Oui, c'est ça.
Mais entouré de personnages qui étaient tous très bien construits, une pièce de Jean Marsan. Très drôle, on s'amusait beaucoup.
Un grand succès.
Et Catherine Samy de la Comédie Française, qui était... C'est un très beau souvenir, très très beau.
Aujourd'hui, ça vous dirait de monter sur les planches jouer des comédies
Oui, j'aimerais bien, oui.
Vous êtes toujours partante.
Oui, mais il y a eu aussi Mère Courage.
Bien sûr,
Brecht, que j'ai joué au Théâtre 71 de Malakoff, qui est un très très beau souvenir aussi.
Et parallèlement, alors donc, au théâtre et à la chanson, est arrivée cette autre carrière, celle des voix de doublage chantées ou parlées au cinéma.
Oui.
Alors, on a évoqué bien sûr Blanche-Neige et Les Sept Nains tout à l'heure, donc la version de 1962, mais ça n'a pas été tout. Vous avez, par exemple, chanté dans le Temple du Soleil.
Oui, le petit personnage de Zorino.
Oui. Et alors ça a été une rencontre marquante, je crois.
Une belle rencontre avec... une belle retrouvaille avec Jacques Brel.
Retrouvailles.
Oui, retrouvailles, parce qu'on s'était bien connus.
Au temps des cabarets.
Au temps des cabarets, tout ça. Et Jacques était venu assister à l'enregistrement des chansons et devait rester un petit quart d'heure parce qu'il avait des répétitions en vue. Et finalement, il était tellement content d'être là et trouvait que l'orchestre était formidable. On enregistrait en direct avec le grand orchestre.
Ouais.
Et il a décommandé tous ses rendez-vous et il est resté. Et il y avait dans la cabine aussi Monsieur Hergé.
Hergé lui-même.
Voilà, Hergé lui-même. Et ça aussi, c'est une superbe rencontre.
Vous avez parlé un peu avec Hergé après l'enregistrement.
Oui, bien sûr. C'est un homme délicieux, gentil comme tout.
Vous avez bon tempérament, parce qu'à vous entendre, tous ces artistes étaient charmants.
Mais écoutez, oui, c'est vrai. Ben Jacques, il était très très gentil, il avait son franc-parler, il n'aimait pas tout le monde, il avait quelquefois la dent dure.
Ouais.
Mais bon, moi, j'ai un très bon souvenir de lui, et voilà. J'ai quelques mauvais souvenirs, mais je n'en parlerai pas. Je préfère parler des beaux souvenirs.
Voilà, le sourire, c'est ce que je disais au début,
c'est
dans votre nature.
D'ailleurs, les beaux souvenirs, c'est ce qu'il y a de plus important. Ils ont effacé les autres, plus ou moins. Enfin,
une jolie leçon pour nous tous.
Oui.
La Belle et la Bête, c'est aussi un bon souvenir?
Oui, c'est un beau souvenir aussi.
Alors, on va écouter, pour faire plaisir à Nicolas Lafitte, entre autres, cette chanson qu'il adore.
Histoire éternelle qu'on ne croit jamais, de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret, et soudain
jardin se pose. Sur leur cœur en fête, un papillon rose, un rien, pas grand chose, une fleur offerte. Rien ne se ressemble, rien n'est plus pareil. La peur envolée, que l'on s'est trompé. Chanson éternelle, au refrain fané. C'est vrai, c'est étrange de voir comme on change sans même y penser. Comme les étoiles, s'éteignent en cachette, l'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête. L'histoire éternelle touche de son aile la belle et la bête.
Et donc, si vous ne connaissez pas Lucie Delaine, comme vous l'avez remarqué, vous connaissez tous au moins sa voix par tous ces films de Blanche-Neige à La Belle et la Bête, en passant par Le Temple du Soleil. Ça,
oui.
C'est bien, finalement, d'avoir comme ça sa voix qui est entrée dans l'histoire du cinéma aussi, d'une certaine façon.
Oui, c'est ce que mes fils me disaient souvent quand ils parlaient de moi à leurs copains, qui n'étaient pas forcés de se rappeler de Lucie Delaine, vous pensez bien, une antiquité. Mais ils disaient, si, ma mère, tu la connais, c'est Blanche-Neige.
Ah ben voilà.
Alors, vous voyez, c'est un passe-partout qui est formidable.
Vous écoutez vos disques, vous regardez ce que vous avez fait, vous êtes plongé un peu dans les souvenirs ou...
Non, il faut vraiment des circonstances exceptionnelles pour que j'aie envie de me réécouter. Si, quelquefois, avec mes petites filles, on parle de choses et on réécoute des choses. Il y a des choses qu'on a souvent écoutées avec mes petites filles, c'était Les Petits Creux de Lula. Une émission que je faisais pour les enfants le mercredi après-midi.
C'est vrai.
Alors, il y avait
à
la télé, il y avait des recettes et des petites chansons. Alors ça, mes petites filles les ont beaucoup écoutées.
Et puis les séries américaines, Amour, Gloire et Beauté, vous avez doublé aussi.
Ah oui, j'ai doublé un personnage formidable qui s'appelait Sally Spectra,
et voilà.
Qui était une maîtresse femme, comme on m'avait dit, une dame m'avait dit un jour. Sally Spectra, c'est une crapule, mais elle a bon fond.
Mais le doublage, ça peut être un métier amusant
Oui, c'est un métier amusant, c'est très difficile.
Oui.
Il faut vraiment s'accrocher, comme on dit. Moi, j'avais fait des choses 20 ans avant, et puis je n'en avais plus fait. Et j'ai recommencé à en faire en 86, et il a fallu que je m'y remette, que je reste des heures à lire avec mes camarades pour être synchrone. Ouais. C'est pas évident.
Non.
Mais une fois qu'on a une petite gymnastique, une petite discipline qui a digérée, il arrive qu'on ait des personnages qui soient très beaux à faire.
Vous chantez un peu, Lucie Delaine ?
Oui, de temps en temps, je chante un petit peu pour moi.
Voilà.
Oui. J'ai même donné des cours de chant à un moment donné au conservatoire de Noisy-le-Grand.
Oui.
vous ne savez pas tout de ma vie, mon cher.
Mais non, ça va être l'occasion de vous réinviter, c'est ça qui est bien. J'en garde toujours un petit peu pour la prochaine fois.
Voilà.
Mais on va se quitter avec une opérette, puisqu'on aime particulièrement l'opérette ici. Vous avez enregistré, on peut dire, une sélection, c'est-à-dire, ça fait quand même toute une phase de 33 tours. Sur une face, Le Pays du Sourire, sur l'autre, L'Auberge du Cheval Blanc.
Oui.
Version un peu condensée, avec le Grand Orchestre de Vienne, sous la direction de Heinz Sandauer. Vous vous rappelez ces enregistrements ?
Oui, très bien. Très, très bien.
Voilà.
Très, très bien.
Vous aimez ce répertoire viennois ?
Ah oui.
Oui.
Ah oui. Oh, écoutez, il faudrait être difficile pour ne pas aimer ce répertoire.
Alors, merci beaucoup, Lucie Delaine. On va vous quitter donc avec quelques beaux airs de Franz Léard. Mm-hmm. Et puis, comme on l'a dit, à la prochaine fois.
À la prochaine fois, mon cher.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est-tu la femme charmante, gentil monsieur Blanc, le monde des fleurs brillantes de Paris. Viens dans le jardin de rêve, gentil monsieur Blanc, nous on peut danser sans rêve dans Paris. Et nous cueillerons des fleurs de toutes les couleurs. Tic, 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 tic.
Brune poupée, fleur parfumée, par tes yeux noirs, l'aigne sont charmés. Nos deux pays sont éloignés, mais nos deux cœurs sont bien rapprochés. C'est toi le plus joli, je crois, des bibelots chinois. Pourquoi l'endroit où tu naquis n'est-il pas mon pays? Brune poupée, fleur parfumée, princesse lointaine et bien aimée.
Du monsieur Blanc peut-elle être aimée? Nos deux pays sont éloignés, oui, mais nos cœurs sont bien rapprochés.
C'est toi le plus joli, je crois, des bibelots chinois. Pourquoi l'endroit où tu naquis n'est-il pas mon pays?
Brune poupée, fleur parfumée, princesse lointaine et bien aimée.
Lucie Delaine et Raoul Malémon dans cet extrait du Pays du Sourire avec le grand orchestre de la radio de Vienne, direction Heinz Sandauer. Inutile de vous le dire, cet enregistrement, comme la plupart de ceux qu'on aura entendu aujourd'hui, sont très difficiles à trouver, mais je suis sûr qu'en cherchant bien, eh bien, vous arriverez à remettre la main sur ces petits trésors de mon invité aujourd'hui, donc, Lucie Delaine. Il y a la fameuse valse de Chostakovitch immortalisée par la publicité, usée un peu par la publicité. Et puis il y a toutes les autres valses de Chostakovitch, comme cette jolie valse humoresque, extraite de la suite de ballet numéro 1 avec l'orchestre du théâtre du Bolchoï sous la direction de Maxime Chostakovitch. Voilà qui vous aura mis en appétit pour accueillir notre chroniqueur Serge Laïc.
Thank you.
Bonjour Serge.
Bonjour cher Benoît.
Nous continuons avec grand plaisir cette collection personnelle signée Serge Elaïque et consacrée au grand chef d'orchestre de variété, avec aujourd'hui quelqu'un que j'avais d'ailleurs reçu mais il y a des années, qui est un personnage important, toujours très actif, monsieur Jean-Claude Rix.
Et oui, Jean-Claude Rix, c'est un demi-siècle d'arrangement pour la chanson française, un vrai record. Jean est aussi un excellent pianiste, il faut le dire. Et pourtant, les débuts furent laborieux, puisque après des études au conservatoire d'Alger, un contrat à la radio comme pianiste là-bas, eh bien, il décide de débarquer à Paris en 1955. Jean-Claude Rix a tout juste 25 ans. Il est à cette époque hébergé chez Marie Bizet, connue pour sa chanson « L'hôtel des Trois Canards ».
Bien sûr.
Vous pouvez la chanter ?
Je pourrais vous la fredonner. Puis il y a aussi Roddy Lemeux avec Fernandel, Marie Bizet.
Alors après quelques mois de vaches enragées, eh bien, Jean joue comme pianiste dans divers orchestres de bal. Et lors d'une soirée entre amis chez Marie Bizet, Jean-Claude Rix se met bien sûr au piano. Et au bout d'un moment, c'est Fernand Bonifay, le barbelivien de l'époque, Dixit Jean-Claude Rix, qui s'approche de lui et demande à Jean s'il n'aurait pas une petite mélodie à lui soumettre pour qu'il y ajoute des paroles. Jean lui fredonne alors « Fa, mi, fa, sol, mi, mi, ré, mi, fa, ré ». Quelques semaines plus tard, quelle ne fut pas la surprise de Jean-Claude Rix d'apprendre que sa mélodie allait être chantée par un certain André Rimbourg.
Mon bon vieux grand-père qui était comédien, quand j'étais gamin, chantait ce refrain. Tout en remontant avec précaution la petite manivelle d'un vieux phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, petit tu vois, quand j'ai le cœur gros, je mets un rouleau et je revois Paulus, Mayol, les rois du music-hall, Dranam, Narquois, qui chantaient les petits pois sur mon phono, mon bon vieux phono, sans me déranger. Je peux écouter le premier numéro de Chevalier. Je vois la Scala, l'Eldorado, et moi enlevé de rideau sur mon phono, mon bon vieux phono, qui chante faux. Par un soir d'hiver pour une grande tournée, grand-père est monté au ciel étoilé. Et j'ai hérité, oh pas de ses millions, mais de son métier du phono à pavillon. Sur mon phono, mon bon vieux phono, comme autrefois, quand j'ai le cafard, que les contrats sont rares, alors ma foi, je donne un tour de clé à son cœur de métal. Et de son côté, il me remonte le moral. Et même si je n'ai pour mon déjeuner qu'un petit sandwich, en écoutant son vieux son fêlé, je me sens plus riche. Et je suis prêt à mettre au clou ma montre et mes bijoux, mais sûrement pas, je vous le dis bien haut, mon vieux phono. Et nous resterons, c'est bien certain, unis comme les doigts de la main. Car mon phono, mon bon vieux phono, oui mon phono, mon bon vieux phono, qui a connu mes joies, mes chagrins, c'est mon copain.
Avec Serge Elaïque, en plus, j'ai toujours les disques d'époque sous la main. Là, c'est donc Bourvil qui chante Fernand Bonifay avec la musique, la première musique, on peut dire, de Jean-Claude Rix. Et vous m'avez même apporté deux autres 45 tours, hein, d'Élie Constantine et d'Onésime Grosbois, qui ont repris cette chanson tellement elle a eu de succès.
Absolument. C'était en 1957, je crois. Alors, les premières années parisiennes sont toutefois très, très dures pour Jean, qui signe de rares arrangements ou accompagnements pour Lucien Jeunesse, que tout le monde connaît, ou pour Alain Barrière et son tube, un des premiers tubes de Barrière, qui s'appelait Cathy. Mais c'est grâce à son passage comme pianiste au cabaret La Villa d'Est au début des années 60 que la chance sourit enfin à Jean. Jean-Claude Rix se souvient bien de cette époque.
D'abord, j'ai accompagné Lucien Traya, c'est l'amour, mon bouton, et qui me dit « Jean, on va passer tous les soirs à 1h du matin à la Villa d'Est ». Bon, c'est pas très... Vous savez, attendre jusqu'à 1h du matin sans s'endormir, mais enfin, c'était comme ça. Et puis, juste avant nous, passait un garçon qui s'appelle Jean Siegfried. Donc, on se côtoyait tous les soirs, on m'a parlé. Et un jour, il me dit, je vais faire un disque chez DKRCA. Le directeur, c'est Guy Lafarge. Est-ce que tu connais un arrangeur ? Ils m'ont demandé un arrangeur. J'ai dit, moi. J'ai fait le disque pour Jean Siegfried, rue Beaujon, le studio se trouvait rue Beaujon. Guy Lafarge descend pour écouter ce que je fais. Il me dit, montez me voir quand vous aurez terminé votre enregistrement. Et Guy Lafarge me dit, mais vous faites des arrangements fantastiques, c'est extraordinaire. Mais on vous connaît pas, d'où vous sortez ? Ben, j'ai dit, je viens d'Alger. Ah bon, vous venez d'Alger. Est-ce que vous, ça vous intéresserait de faire un disque avec Maurice Chevalier ? Alors j'allais m'étrangler de stupeur et de joie en même temps. Ben, je lui dis, je pense bien. Il prend le téléphone, il appelle Maurice Chevalier. Il lui dit, Maurice, j'ai en face de moi un jeune arrangeur qui s'appelle Jean-Claude Ric. Je te le propose pour ton prochain disque. Et Maurice dit, avec joie. Et me voilà parti chez Maurice Chevalier. Et le disque sort avec arrangement et direction d'orchestre Jean-Claude Ric. Et depuis, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Je remercie Guy Lafarge, Jean Siegfried, Lucette Raya et le bon Dieu, évidemment.
L'autre jour j'étais dans le métro, une dame s'assied près de moi, je la regarde aussitôt, mais la lumière juste à ce moment s'éteignit subitement. Ma voisine effrayée se jette dans mes bras, affolée je l'embrasse et depuis ce jour-là, je l'ai cherchée en vain et plein d'émoi, je dis à chaque femme que j'aperçois. Est-ce vous la petite femme qui étiez l'autre tantôt près de moi dans le métro, à la station de l'Odéon? Je n'ai pas pu vous voir car il faisait trop noir, mais je voudrais savoir, est-ce vous dont le baiser si doux m'a rendu amoureux fou? J'aperçois une jolie femme là-bas qui me fait signe que c'est elle. Vraiment, je n'en reviens pas. Quoi, c'est vous, madame ? Oh, quel honneur ! Je suis fou de bonheur. Vous avez de la mémoire, c'est merveilleux. Vraiment, madame, je n'en crois pas mes yeux. Vous me reconnaissez ? C'est épatant. Moi, je ne peux pas en dire autant. C'est vous la petite femme qui étiez l'autre tantôt près de moi dans le métro. Comment ça se fait? Je le prends jamais. Vous émotionnez pas quand je dis cette chanson-là, c'est toujours comme ça. Ça ne rate jamais. Au deuxième couplet, il y a une dame qui me reconnaît.
La petite dame du métro par Maurice Chevalier dans un disque d'hommage à Henri Christinet. Que des chansons de Christinet, pas forcément connues d'ailleurs, un disque très intéressant de 1962. Premier disque de Jean-Claude Ric dont vous nous parlez aujourd'hui, Serge Laïc. Ça m'amuse parce que avec Lucie Dolen tout à l'heure, on a parlé également du rôle de Guy Lafarge dans sa carrière. Alors voilà un nom qui revient
lien.
Deux fois aujourd'hui.
Formidable. Alors donc depuis un demi-siècle, eh bien des centaines de disques, alors je dis bien des centaines de disques ont été arrangés et dirigés par Jean-Claude Ric, donc depuis ce fameux Maurice Chevalier. Alors, il a arrangé pour Joséphine Baker, Jean Sablon, Fernandel, Mick Mitchell, Charles Aznavour, je vais m'arrêter, Michel Sardou, Pierre Perret, Annie Cordy, Mireille Mathieu ou Dalida. Alors, une mention spéciale pour Enrico Macias.
Eh oui,
avec qui Jean-Claude Ric aura une très longue collaboration. Ils composent ensemble la musique de la belle chanson « Les gens du Nord », les paroles de Jacques de Marny. Cette chanson, véritable hymne chez les ch'tis, fut écrite spécialement pour eux parce que, en fait, chaque fois qu'Enrico allait faire des tournées ou des concerts dans le Nord, eh bien, il avait un accueil qui n'était pas très chaleureux parce que Enrico parlait tout le temps du soleil. Et c'est vrai que ça énervait un petit peu le public, finalement. Et c'est pour ça qu'après cette histoire-là, eh bien, Enrico et Jean-Claude Ric ont fait cette chanson « Les gens du Nord ». Mais alors, au tableau d'honneur de Jean-Claude Ric est inscrit aussi le superbe arrangement ciselé pour Ménilmontant, chanté par Jean-Claude Pascal. Écoutez bien le travail d'orfèvre de Jean-Claude Ric.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur, c'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme, tout mon bonheur. Quand je revois
ma petite église où les mariages allaient gaiement. Quand je revois ma vieille maison grise où même la brise parle d'antan, elle me raconte comme autrefois de jolis contes. Au jour passé, je vous revois un rendez-vous, une musique, des yeux rêveurs, tout un roman d'amour poétique et pathétique. Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme, toute ma flamme et mon bonheur. Quand je revois ma petite gare où chaque train passait joyeux, j'entends encore dans le tintamarre des mots bizarres, des mots d'adieu. Je suis pas poète, mais je suis ému. Et dans ma tête, il y a des souvenirs jamais perdus. Un soir d'hiver, une musique, des yeux très doux, des tiens, maman. Quel beau roman d'amour, poétique et pathétique. Ménilmontant.
Ménilmontant, la voix de Jean-Claude Pascal et donc les très beaux arrangements effectivement de Jean-Claude Ric, Serge Elaï.
Et alors, petite révélation, Benoît, saviez-vous que Jean-Claude Ric est en fait un des pseudonymes de Jean-Claude Bacri?
Je le sais parce que j'ai le plaisir de connaître, comme beaucoup d'auditeurs de France Musique, son fils qui est un excellent compositeur,
Nicolas
Bacri.
Et, et la femme de Jean qui est Huguette, que l'on peut saluer.
Voilà. Et l'autre fils qui est aussi musicien d'ailleurs.
Franck Bacri.
Voilà.
Alors, il y a eu d'autres pseudonymes de Jean-Claude Bacri. Sam Clayton, le saviez-vous? C'était quand Jean arrangeait les premiers disques de Sheila, figurez-vous. Alors en 76, Jean-Claude Ric est l'auteur d'une grande première. Il enregistre avec un grand orchestre symphonique les musiques des succès de Sardou. Et pour un de ses disques, eh bien Jean eut même l'honneur de diriger le London Symphony Orchestra dans les studios mythiques d'Abbey Road à Londres. Un immense souvenir pour Jean. Toujours sur la brèche, Jean-Claude Ric, qui a fêté récemment ses 80 printemps, a constitué en 2004, vous le savez Benoît, un big band considéré comme l'un des meilleurs en France. Et alors pour terminer cette chronique, eh bien nous écoutons Jean-Claude Ric associé au toujours jeune Marcel Amont, que vous aviez reçu il y a quelques temps. Voilà Benoît, merci, bon été à vous, à toute l'équipe et à tous les auditeurs.
Merci Serge, on vous retrouve sûrement à la rentrée.
Une très grande joie pour moi et merci encore.
D'amour, vol d'oiseau, nous semble bien souvent si près que l'on croit pouvoir le toucher. L'amour, vol d'oiseau, on lui fait signe, il nous sourit, on s'en approche, il s'est enfui. L'amour, vol d'oiseau, nous semble bien souvent si près que l'on croit pouvoir. L'amour quand on le voit à votre oiseau semble plus proche, mais quand on prend la route pour aller vers lui un jour, il faut toujours avoir une boussole dans sa poche et puis des provisions pour faire un long sillon pas pour. L'amour à votre oiseau nous semble bien souvent si près que l'on croit pouvoir le toucher. On lui fait signe, il nous sourit, on s'en approche, il s'est enfui. L'amour, un vol d'oiseau, tout semble bien souvent si vrai que l'on croit pouvoir le toucher. Quand on croit qu'il nous invite, ça n'est qu'une illusion d'optique. Elsa en fait des tours sur mon cadran et deux aiguilles. Depuis que je me suis mis à chercher mon oiseau rare, j'en ai vu du pays.
L'amour à vol d'oiseau, c'était Marcel Amont, accompagné par l'orchestre de Jean-Claude Ric en 1972. Et c'était la chronique de notre ami Serge Elaïc. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Duteurtre préparée par Nicolas Lafitte, avec aujourd'hui à la technique Emmanuel Armingue. La réalisation était co-signée par Françoise Cordet et Sophie Pichon. Et la semaine prochaine, je recevrai à ce micro Madame Jacqueline Boyer. Bon week-end à tous sur France Musique.
À réécouter sur francemusique.fr.